téléspectateurs vont.
J'ai entendu ça aux
infos.
Les réseaux sociaux, on est fait faire. C'est pas notre temps.
Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est le démarrage en trompe de l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
BuzzFeed est devenu un géant mondial du web. Virage a été pris aux États-Unis. Des gags, des classements potaches et autres blagues qui se partagent à gogo sur les réseaux sociaux et dans ce fatras rigolo de l'info, de la vraie, du fact-checking et des scoops. BuzzFeed France promettait à son tour d'entrer dans l'arène du journalisme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'y ai pas cru du tout il y a 2 ans, mais tout le monde peut se promettre, peut se tromper. Mais tout le monde peut se tromper. Moi la première, l'info a un nouveau visage qui mélange allègrement les genres, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois pointu, souvent engagé. Bonjour Cécile Hédin.
Bonjour.
Alors, vous dirigez BuzzFeed France et quand vous êtes sortie de ce studio la dernière fois, vous vous êtes dit que la culture web n'était pas donnée à tout le monde, c'est ça?
Je ne dirais rien à ce sujet.
Que je devais être soit très très ringarde,
non, je me
soit
suis dit,
très très rigide.
Je me suis dit qu'on avait du travail à faire, c'est
c'est
tout.
Ça. Bon, bah le travail a été fait alors. D'abord, c'est mardi. Le mardi, c'est donné. Donné, c'est pas le coup de cœur qu'il a eu, c'est le coup de foudre. Salut.
Bonjour Sonia, voulez-vous m'épouser?
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Ah bah alors là, en direct et tout, ah, filmé, bam.
Et hop, générique au bon moment.
C'est ça. Bon, alors, on va quand même faire un petit peu d'actu média du jour, hein, parce qu'entre les mea culpa et les demandes en mariage, on fait que s'abonner dans le début de cette émission. C'est à lire dans le Figaro ce matin. Destruction d'emplois en chaîne dans les médias français. 70 journalistes sur 120 quittent iTélé, mais la direction du groupe Canal promet de les remplacer. En revanche, l'Obs s'apprête à supprimer 38 postes sur 143. Le Parisien va perdre 60 journalistes suite à son rachat par LVMH. Il y aura plus de partants que de recrues. Un tiers de la rédaction du pôle presse de Walter Kluivert, des titres de presse professionnels, va disparaître. Les effectifs de Nice Matin, les journaux du Midi, la Dépêche du Midi fondent à vue d'œil. La Voix du Nord devrait annoncer un plan de départ. La Marseillaise, 57 journalistes, est en liquidation judiciaire. Le rachat du groupe L'Express s'est traduit, vous vous en souvenez, par la suppression de 200 postes. Le groupe Lagardère prévoit de mettre dehors 224 salariés pour améliorer sa rentabilité. Peut-être que sans le savoir, j'ai fait une liste, Cécile Dédin.
Hein, peut-être. Une liste assez déprimante.
Ouais. Assez déprimante, assez terrifiante. Évidemment, pour expliquer tout ça, il y a un transfert massif, pas seulement de l'audience, mais d'abord de la publicité, des recettes publicitaires vers les géants du web. Est-ce qu'on peut dire un mot du fonctionnement publicitaire assez particulier qu'assume parfaitement et que revendique BuzzFeed?
Oui, en gros, BuzzFeed, son fonctionnement publicitaire, c'est sur le native advertising, ce qu'en meilleur français, on appellerait contenu sponsorisé. Donc, c'est des contenus qui sont créés pour les marques par une équipe dédiée, qui n'est pas l'équipe éditoriale de journalistes du reste du site. Dans l'idée de
donc
les aider
à... c'est des clips, c'est des campagnes, c'est des spots de pub.
C'est soit des spots vidéo, ça peut aussi être des listes ou des quiz, mais qui ne sont pas de la publicité classique, qui vont plutôt mettre en scène le produit ou l'idée derrière. Si je peux vous donner un exemple, en liste par exemple, il y avait une marque de voiture aux États-Unis qui sortait une nouvelle voiture hybride, et BuzzFeed a travaillé la partie commerciale de BuzzFeed a travaillé avec cette marque pour faire une liste qui était quelque chose du genre les 18 animaux hybrides qu'on aimerait voir exister dans la vraie vie. Donc, c'était pas un truc
de la même manière que là, sur votre site, on peut trouver un spot de pub assez bien fichu pour des croquettes Friskas. Et il est co-siglé à la fin Purina, qui est donc le fabricant. Et BuzzFeed. Donc ça, vous assumez totalement, parce que ça se balade au milieu d'infos extrêmement sérieuses, on va en parler, et de gags. Vous assumez totalement?
Oui, c'est assumé totalement parce que c'est clairement montré, en fait, sur la page de BuzzFeed, comme sur Facebook ou YouTube, quand c'est dans des vidéos, c'est signé par la marque. Il y a tout l'environnement de la marque autour. On peut pas, y a marqué sponsorisé par. On peut pas croire que c'est quelque chose écrit par la rédaction. Donc à partir de ce moment-là, le lecteur sait face à quoi il est.
Voilà, gros changement de génération. Alors Bruno, après cette tonitruante entrée en matière,
vous n'avez pas répondu. Hein.
Non, j'attends la fin de l'émission. Hier, vous avez regardé Mariés au premier regard sur M6 et vous nous dites ce matin qu'on a franchi un cap dans l'utilisation des experts à la télévision. sont.
Oui, Sonia, à l'heure où la défiance est maximale à l'égard de tous les spécialistes qu'on voit causer dans le Poste, au moment où l'on reproche aux experts de n'avoir vu arriver ni Trump ni Fillon, j'ai vu hier quelque chose de tout à fait saisissant. Une émission qui réconcilie les experts avec le public, non pas parce que les experts y sont infaillibles, bien au contraire, mais parce qu'ils se foutent ostensiblement de notre gueule et que nous... aussi. Alors, je vous explique de quoi il s'agit et puis je vous dirai après en quoi c'est nouveau. Le principe de ce programme, c'est de faire se marier, écoutez-moi bien, un homme et une femme qui ne se sont absolument jamais vus avant de se retrouver devant Monsieur le maire, tout ça en s'abritant derrière une batterie d'expériences soi-disant scientifiques qui déterminent leur taux de compatibilité.
Grâce au progrès de la science, on peut savoir mieux que vous-même de qui vous allez tomber amoureux.
Voilà, alors le gars qui sait tout mieux que vous, c'est le psychologue de l'émission et il est épaulé par un sociologue et par une sexologue qui vous explique ceci.
On dispose de tests qui sont validés scientifiquement, qui permettent de former un couple qui va durer sur le long terme.
Bon, alors les tests validés scientifiquement, même si t'es pas scientifique, tu pleures de rire en découvrant ce qu'ils appellent science.
Ils ont senti les t-shirts portés pendant 3 nuits par les participants de l'autre sexe.
Voilà, ou alors tu te dis comme un candidat à l'émission...
Ça donne envie de chialer, quoi.
Ça donne envie de chialer, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que cette émission se moque de nous? Eh bien, parce qu'après avoir passé une plombe à nous expliquer que l'amour c'est scientifique, cartésien, bref, prévisible, le sociologue du programme se pointe et vous dit tranquillou, tout le contraire.
Tout est plus fort dans cette expérience qui est inédite, qui est incroyable. On n'a aucun moyen de prévoir ce qui va se passer.
Voilà, c'est prévisible, mais il peut rien savoir. Il peut rien prévoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Eh bien, l'immense nouveauté, Sonia, c'est que dans cette émission-là, les experts ne font même plus semblant de croire aux conneries qu'ils nous racontent. Ils passent toute l'émission à être contredits par les faits, à dévoyer la promesse du programme, mais ça ne dérange absolument personne. Jugez plutôt. Au tout début, le psychologue nous a expliqué, au sujet du couple qu'ils ont formé entre une certaine Tiffany et Thomas, ça.
Selon nous, ils ont tout pour être bien ensemble.
Voilà, qu'ils étaient compatibles à 85%, dis donc. Ils se sont donc mariés, mais qu'est-ce qui nous a annoncé le gars Thomas à la fin du programme?
Je crois qu'on va décider de divorcer.
Aïe. Du coup, les experts ont formé, toujours scientifiquement, un autre couple, Valentine et Justin, mais qu'est-ce qui s'est passé quand la science s'est retrouvée devant Monsieur le maire?
Mademoiselle Valentine Kelly Faustine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Justin ici présent?
Non.
Elle a dit non, l'andouille. C'est pas de bol, mais rien à foutre. Les experts ont décidé de faire se rencontrer Tiffany du couple A et Justin du couple B. Alors cette fois, ils se sont vus, ils sont pas passés par la case mariage, ils se sont fréquentés pendant 6 mois, tenez-vous bien, et eh ben ils se sont plus. Moralité, le concept, les experts, la science et tout le Saint-Frusquien, tout le monde s'en tape, personne n'est dupe et l'émission cartonne. Preuve qu'elle est tout à fait compatible avec un public qui a bien compris qu'il fallait désormais prendre les experts cathodiques précisément pour ce qu'ils sont, des gros bouffons qui, sur M6 au moins, ne font même plus semblant de ne pas l'être.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Bon bah voilà, il va falloir reprendre son sérieux. Quoique, avec BuzzFeed, Cécile Dédain, vous êtes donc mon invitée ce matin. Et je suis toute perturbée par Bruno Donnet. Voilà, et ça demande en mariage, je suis toute rouge. Je me demande si je vais vous dire oui ou si je vais vous dire non. Il nous reste 11 minutes. Voilà, alors ce qui est très important, c'est de mettre le doigt sur des affaires que vous avez sorties sur BuzzFeed, qui ont fait beaucoup de bruit, voire beaucoup de grabuges. Direction l'Assemblée nationale, quand une députée demande des explications à Jean-Michel Baylet.
Le 11 février 2002, monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par
Attard,
les journalistes Marie Kirchen et
Madame
David Attard, Perrotin.
Pardonnez-moi.
Nous avons un groupe écologique.
Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît.
Voilà, et comme elle est interrompue sans cesse, elle redonne le nom de vos journalistes qui ont travaillé à ce moment-là. Donc clairement, le virage a été pris, c'est-à-dire que vous assumez des formats longs, sérieux et des enquêtes au milieu du fatras rigolo sur lequel on va revenir après, Cécile Dédain.
Oui, BuzzFeed, dans l'ADN de BuzzFeed, il y a un site d'information et de divertissement. Il y a les deux. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est le meilleur divertissement et la meilleure information. Et pour nous, aujourd'hui en France, alors qu'on est une petite équipe et qu'il y a beaucoup de sites d'information, la façon de faire ça, de percer dans le bruit médiatique, bah, c'est de se concentrer sur des informations à nous, de la valeur ajoutée, des scoops, de l'enquête.
C'est ça, puisque vous prétendez en rien être un site généraliste. Et souvent, il suffit, et vous le montrez, hein, d'aller sur place, d'aller sur les lieux. C'est ce que vous avez fait, par exemple, au moment du salon à Pontoise, qui avait mais déchaîné le buzz, parce que c'était un salon dédié à la communauté musulmane, et qui avait déchaîné le buzz. Vous, vous êtes allé sur place, vous avez dit le contraire de ce qui avait été écrit partout.
Bah, en gros, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est on peut faire un pré-papier, ou on peut y aller.
C'est ça.
Enfin, on peut faire les deux aussi, vous me direz.
Oui.
On a vu, il y avait des pré-papiers qui commençaient à sortir et on s'est dit, bon, oublions ça et allons-y et on verra. Et en fait, il y avait très peu de journalistes sur place et David Perrotin, qui est allé pour BuzzFeed, y est resté tout le temps et donc était devant la scène quand notamment plusieurs militantes des Femen ont débarqué sur scène et qu'elles ont essayé d'interrompre le panel et qu'elles ont été violemment sorties de la salle. Donc il a pu le filmer, il a pu enregistrer, il a pu écrire tout simplement tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait entendu.
C'est ça, c'est que c'était pas forcément le déballage intégriste que tout le monde avait voulu dénoncer haut et fort. Rendez-vous avec Bernard de la Villardière aussi.
Ouais, c'est bon, calme, les mecs, arrêtez, calme.
Apparemment, nos caméras dérangent dans le quartier.
Il y a un problème ?
Arrête de filmer, trou du cul, là.
C'est bon, c'est bon.
Bonjour, tout va bien. On a dit bonjour. Vous nous laissez bosser, d'accord ? Vous nous laissez bosser.
Arrête de filmer, c'est pas
Dans ce groupe de jeunes, un mélange de salafistes et de dealers.
Vous avez eu peur ? C'était à Sevran, ça.
Vous avez eu peur, demande Anne-Sophie Lapix à Bernard de la Villardière. C'était après le tournage de son dossier tabou à Sevran. Vous, vous y êtes allé à Sevran. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à Sevran, Cécile Déhédin ?
En fait, on a retrouvé
Les salafistes et les dealers.
On va pas les appeler comme ça. Mais la bande d'amis décrits comme les jeunes, bon, ils sont pas si jeunes que ça, ils ont plutôt la trentaine, hein, ça y est, c'est fini. La bande d'amis qui figure là dans la bande qu'on a pu entendre et qui avaient eux-mêmes enregistré ce qui s'était passé avant et pendant cette intervention des équipes de Bernard de la Villardière et qui en ont parlé sur Facebook, on dit qu'ils avaient leur version, qu'ils avaient envie d'en parler et donc David les a contactés et est allé les voir, a discuté avec eux, les a pris en photo, a récupéré les vidéos et a fait un article simplement pour présenter en gros leur témoignage, leur version de ce qui s'était passé dans Dossier Tabou.
Voilà, et quand on en parle avec la direction de la communication d'M6, on vous explique que ce sont des journalistes de 22 ans qui n'ont même pas de carte de presse.
C'est nous ça ?
Ouais, oui, j'imagine.
Merci la direction de la communication d'M6.
Voilà, sinon c'est vous qui avez aussi débusqué le faux compte Twitter de Laurent Deutsch, hein, qui lui permet d'agonir d'insultes parfois extrêmement graves, parce qu'il y a aussi des menaces de mort sur tous les gens qui remettent en question ces thèses historiques sur les réseaux sociaux. On va y revenir, mais d'abord un mot sur BuzzFeed. Donc je l'ai dit, c'est 7 milliards de vues par mois. C'est 11 pays, 6 langues. C'est un site qui a été créé à New York en 2006. Le virage de l'info, de l'enquête et du scoop, il a été pris avant vous aux États-Unis et en Angleterre également. Donc vous suivez. On va quand même revenir sur ce que découvre l'internaute quand il arrive sur la page du site. Voilà, je sais pas, on a mis une petite musique avec un chat qui joue du piano. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une liste ? Qu'est-ce que c'est qu'une liste ? Parce que c'est devenu une manie chez BuzzFeed.
Qu'est-ce que c'est qu'une liste ?
Qu'est-ce que c'est qu'une liste ?
La question philosophique du mardi
matin. Bah oui, la question philosophique.
Une liste pour BuzzFeed, c'est un des formats qu'on utilise, notamment dans toute la partie divertissement, pour exposer un angle comme un autre. Il y a plein de gens qui font des listes maintenant dans plein d'autres médias, mais généralement, ils vont faire, je sais pas, 5 raisons d'aller voir tel film. Et nous, on va plutôt faire 23 choses que tous les gens qui aiment se coucher à 23h comprendront.
Voilà, ou 12 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le pet vaginaux. Donc vous assumez totalement le côté gaguesque, potache,
mais alors, même
crados, ado, régressif
mais
et
pourquoi,
tout.
Pourquoi crados ? Non mais pourquoi crados ? Les pets vaginaux, je ne sais pas trop, je voudrais parler de ça sur France France Inter.
Je sais pas si c'est parce que c'est sur votre homepage
vous
aujourd'hui.
Vous en avez parlé. C'est vous qui avez commencé. Donc je poursuis. La oui. sexualité, ce n'est pas sale. Mm. Le rapport au corps, ce n'est pas sale. D'accord. Ton corps change. Non, merci, mais du coup, Cécile. Voilà, ce n'est pas sale et c'est important d'en parler d'une façon abordable, sans tabou
ouais.
et justement décomplexante par rapport à des phénomènes corporels liés à la sexualité.
Alors, il y a du non tabou, il y a du décomplexant, il y a aussi de la grosse déconne. Hein. Vous avez organisé une battle de goûter avec nos gâteaux préférés. Ça a duré un mois sur Twitter et sur Facebook. J'ai vu, il y a des gens très très sérieux qui ont participé. Hein. C'était genre Oreo contre Mikado. Il y avait 64 goûters en liste. Hein. Le finaliste, c'était le Kinder Bueno, c'est ça, face à la viennoiserie. Il y a aussi.
Ouais, je crois que c'est la viennoiserie qui a
un gagné. Grand tournoi de bonbons, hein, victoire écrasante des dragibus, me semble-t-il.
Intolérable.
Intolérable, on est bien d'accord. Et pourtant, là-dedans, parce que nous, on a été chercher hein, tous ces papiers sérieux qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui, on y a trouvé plutôt un journalisme engagé, un journalisme relativement engagé, notamment sur le droit des minorités, contre les discriminations, plutôt féministe, suivant de très près l'affaire Adama Traoré, ce qui n'est pas le cas de tous les médias aujourd'hui, par exemple.
BuzzFeed est un site qui a des valeurs, des valeurs qu'on exprime au quotidien dans la partie info du site, mais aussi dans la partie divertissement. Et dans ces valeurs, il y a l'antisexisme, l'antiracisme, l'égalité des droits pour tous, quelle que soit l'orientation sexuelle ou
c'est
l'identité de genre.
Il y a une enquête sur la BNP condamnée pour discrimination et harcèlement d'un salarié homosexuel. Il y a dans les fameuses listes qui sont d'allure totalement gaguesque 17 personnalités trans que vous devriez connaître.
Oui, il y a aussi les phrases que les femmes en ont marre d'entendre au travail. Mm-hmm. Il y a le divertissement, c'est peut-être pas le nom idéal, mais en gros, c'est tout ce qui n'a pas trait à l'actu, mais c'est aussi tout ce qui fait du lien entre nous, du lien social, du partage. Pourquoi BuzzFeed repose autant sur les réseaux sociaux et le partage ? Bah parce que l'idée, c'est que vous partagez un article avec les personnes de votre vie. Mm-hmm. Avec qui vous ressentez un lien par rapport à cet article, par exemple, d'autres femmes qui en ont marre de se prendre des commentaires sexistes au travail, ou pour la partie info, des personnes qui sont choquées de ce qui s'est passé avec Adama Traoré, etc. C'est quelque chose
qui est
important.
Mais est-ce que ça signifie justement que vous sélectionnez, que vous hiérarchisez, que vous chassez finalement les sujets en fonction de leur capacité à être partagés sur les réseaux sociaux ?
Non, je pense que on cherche les sujets qui nous intéressent, qui sont quand c'est des sujets d'actu, on cherche ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée. Et ensuite, c'est plus au moment de l'écriture ou de la réflexion autour du titre, de l'image, du partage sur les réseaux qu'on va se dire tiens,
là,
comment
tout
le présenter
est fait justement pour accélérer.
Comment le présenter pour que les gens aient envie de le partager. Mais attention, parce que pour que les gens aient envie de le partager, il faut qu'ils soient convaincus ou qu'ils soient énervés au choix. Il faut qu'ils le lisent en tout cas. Ce
que qu'ils soient choqués ou qu'ils soient morts de rire.
Mais on peut faire un super titre et une super image. Si l'article n'a pas d'intérêt d'ailleurs, derrière, bah, les gens ne le partageront pas.
Bon, allez vous faire votre avis et dites-nous si vous préférez les dragibus ou les chamallows. Pour moi, le choix est tout fait. Bruno Donnet, c'est non. Mais vous revenez en deuxième semaine.
Oh putain, alors, allez,
au revoir.
Je me barre.
Bah oui, mais ça marche qu'au premier regard. Et nous, ça fait presque un an et demi qu'on se supporte. Ali Réveilly, très vite.
Bonjour Sonia Devillers. Le sel est-il un poison ? C'est le thème ce matin. Nous verrons ce matin quelles sont les conséquences d'une surconsommation de sel sur notre santé. Pourquoi les industriels de l'agroalimentaire cachent-ils autant de sel dans notre alimentation ? 01 45 24 7000.
24 bonnes raisons d'appeler Ali Rebéi après les infos.